De lire avec moi dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'au travers d'elle, tu nous montres la voie que nous devons suivre. Et nous te prions particulièrement ce matin que tu nous aides pour que nous soyons aussi capables d'exercer la foi en face de toutes les circonstances que nous pouvons rencontrer pour être plus que vainqueurs par ta grâce. Nous voyons comment tu es intervenu dans cette situation tragique dans laquelle pouvait se trouver Pierre. Et toi, tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es toujours le même et tu peux toujours venir au secours de quiconque s'attend à toi. Seigneur, s'il te plaît, viens susciter une foi réelle et véritable dans nos cœurs afin que, confiante en toi, nous puissions aller de l'avant et marcher de victoire en victoire. Nous te le demandons de tout notre cœur et dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Le titre de ma méditation ce matin, ce sera le secret de la prière victorieuse. Cependant, je vais commencer par vous dire que nous avons vraiment besoin de demander au Seigneur qu'il vienne au secours de notre incrédulité. Peut-être quelques-uns sont étonnés de ce que je viens de dire, parce que chacun d'entre nous, nous avons quand même la possibilité de dire « mais nous croyons en Dieu, nous avons la foi dans le Seigneur ». Mais je me rappelle d'une expérience qui est rapportée dans l'Évangile, où un certain personnage est allé vers le Seigneur Jésus avec un problème qui était très grave. Il venait demander le secours pour son enfant qui se trouvait dans une situation désespérée, esclave, je dirais, de la puissance des ténèbres. Et Jésus lui a posé simplement cette question. « Crois-tu que je puisse faire cela ? Crois-tu ? » Et cet homme, d'une manière très honnête, a répondu « Oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Vous voyez, chacun d'entre nous, quelquefois au travers de certaines situations, nous pourrions reconnaître de la même manière qu'il y a comme deux courants à l'intérieur de nous-mêmes. Un courant qui dit « Oui, Dieu est capable, Dieu est puissant, Dieu peut secourir, Dieu peut faire des miracles, Dieu peut délivrer. » Mais en même temps, il y a un autre courant au fond de nous-mêmes qui met en doute et qui, dans le fond, reconnaît sa faiblesse extrême. Mais quand on est honnête et que l'on reconnaît cela, alors le Seigneur peut venir à notre secours et nous accorder même au-delà de ce que nous osons demander. Si j'ai commencé par vous dire cela, c'est parce que, comme moi, vous avez constaté en lisant ce texte de la parole de Dieu, que ces chrétiens qui, avec foi, réclamaient à Dieu la délivrance de Pierre qui était là, emprisonné, quand le miracle s'est produit, ils étaient étonnés et quelques-uns ont dit à la femme qui venait d'avoir la connaissance que Pierre était rendu à la liberté, ils ont dit « mais tu es folle ». Et d'autres ont dit « mais non, ça ne peut pas être lui, c'est un ange ». Nous verrons cela tout à l'heure, ce que cela peut bien représenter. Mais j'aimerais ce matin rappeler comme un encouragement à la prière le cas intéressant que nous rapporte ce texte de la parole de Dieu. Je vais donc commencer par ce qui est dit dans le premier verset. En même temps, ou vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Je crois que quelqu'un dans la prière avant que le culte ne commence faisait allusion aussi à un temps de persécution que certains de nos frères et de nos sœurs dans le monde connaissent. Nous avons le grand privilège, et merci Seigneur pour cela, d'être libres. Nous savons qu'à la fin de cette réunion, il n'y a pas quelqu'un qui nous attend, peut-être pour nous amener en prison ou nous amener simplement pour être interrogés au sujet de notre foi. Nous sommes entrés libres, nous allons repartir libres. Mais en même temps, quelque part dans le monde, il y a des hommes et des femmes qui, comme nous, louent le Seigneur pour le privilège qu'ils ont d'être sauvés, mais qui tremblent parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la liberté totale de rendre grâce à Dieu publiquement. Et ils savent aussi que leur vie est exposée. N'oublions pas de prier pour eux. Mais je reviens à ce texte. Voyez-vous, celui qui a manifesté comme cela ce désir de persécuter les chrétiens, de maltraiter les chrétiens dans cette ville de Jérusalem, c'est Hérode Agrippa Ier, le petit-fils d'Hérode le Grand. Et les historiens nous rapportent que cet homme a régné de l'année 37 à l'année 44. C'était un homme pervers, un homme assez méchant. Il lui avait été confié la gouvernance de l'Israël du Nord. Et puis, pendant une période, parce qu'il avait eu un mauvais comportement, l'empereur Tibère l'avait mis en prison. Et quand Tibère est mort, il a été rendu à la liberté, puis on a ajouté alors à son royaume, eh bien, la Césarée et la Judée, et il est devenu un homme très influent. Mais c'est curieux, parce que dans un premier temps, il avait plutôt été, par rapport aux chrétiens, d'une bonne entente. C'est la raison pour laquelle, dans un chapitre précédent, il est dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Il faut vous dire que deux éléments sont intervenus à ce moment-là. D'abord, Saul de Tarse s'est converti, c'était le grand persécuteur, et lui, Hérode Agrippa, a manifesté de bonnes intentions. Mais au bout de quelques années seulement, eh bien, il a changé d'attitude, il a changé de comportement. Je m'arrête ici un instant pour vous dire, mes frères et sœurs, n'oublions jamais. Aujourd'hui, nous avons la liberté. Aujourd'hui, nous avons la paix. Aujourd'hui, nous sommes tranquilles et nous servons le Seigneur en toute liberté. Mais, vous savez, nous sommes dans un temps où tout peut changer rapidement. Et nous avons besoin de prendre conscience que quand les circonstances changent, notre Dieu, pour autant, reste toujours le même à notre égard. Et nous allons voir ce qui est dit concernant cette période troublée. Même si précédemment il était dit L'Église était en paix parce que les circonstances étaient favorables. Je veux dire ici que même dans ce temps de persécution, même dans ce temps d'épreuve, l'Église aussi était en paix. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas nous tromper au sujet de la définition de la paix de Dieu dans notre cœur. Pour certaines personnes, la paix, ça signifie ne pas avoir d'hostilité. La paix signifie ne pas avoir d'épreuves. La paix signifie ne pas avoir d'adversité. La paix signifie ne pas être confronté à des choses difficiles à vivre. Mais je remarque que l'enseignement de la parole de Dieu ne va pas dans ce sens-là. Et quand Jésus lui-même, je le rappelais cette semaine à la fin d'une réunion avec notre frère, a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et qu'il a précisé un peu plus tard, « Je vous ai dit ces choses afin que ma paix soit en vous ». Eh bien, quelle était la perspective qui se trouvait devant le Seigneur à ce moment-là ? Est-ce une vie sans difficulté ? Est-ce une vie sans obstacle, sans souffrance ? La perspective qu'il avait devant ses yeux, c'était la croix. Et il allait endurer l'épreuve la plus terrible qui soit, par amour pour chacun d'entre nous. Et pourtant, il dit « Ma paix, je désire qu'elle soit en vous ». Ainsi donc, il faut que nous sachions que même si les circonstances changent dans notre vie, et que d'un temps de bénédiction, d'un temps où tout est paisible, où tout n'est que joie, où tout n'est que bonheur, nous passons à un temps où il y a l'épreuve, où il y a les difficultés, où il y a l'adversité, où il y a la maladie, où il y a la souffrance. Pour autant, Dieu est capable, par la puissance de son Esprit, de nous garder en paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est d'elle que l'apôtre Paul fait mention dans une de ses épîtres. Et pourtant, même quand lui parle de cette paix qui surpasse toute intelligence, eh bien il va faire la description de tout ce qui lui arrive, de tout ce qui est son partage. Et il y a un long article écrit par lui-même où il fait mention de tout ce qu'il endure, de tout ce qu'il souffre, de tout ce qu'il traverse. Et il termine en disant, sans compter sur le souci que me procurent toutes les églises. Et pourtant, il dit, la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est une notion que nous avons besoin de bien réaliser, de bien comprendre. Et je dirais, sans le secours du Saint-Esprit, cette paix qui est le fruit de l'Esprit, elle ne peut pas être notre partage. Et c'est la raison pour laquelle, oui, nous avons besoin de chanter et de prier aussi le Seigneur en lui disant, « Envoie les fraîches rosées ». Pour que par l'action de ton esprit, je ne sois pas quelqu'un qui m'habitue à une vie médiocre, une vie de facilité, une vie où tout est rose, où il n'y a pas d'épines. Mais en tous les cas, quand les épines se manifestent, que je sois aussi capable de te louer, de t'adorer, de te célébrer, de te servir avec la même paix, la même tranquillité et la même assurance que toi, tu ne m'abandonneras jamais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, frères et sœurs ? Et regardez, l'Église se trouvait dans cette situation-là et voilà, Hérode qui s'amuse, permettez cette expression, à maltraiter quelques membres de l'Église. Savez-vous pourquoi ? Parce que dans sa politique, il a changé. Il a vu qu'il fallait être agréable aux Juifs religieux. Il utilisait ces juifs religieux comme un paravent pour avoir une meilleure réputation à Rome. Et cet homme-là, voyant que ce qu'il faisait était agréable aux juifs, eh bien, il avait fait mourir par l'épée Jacques. Et puis, j'apprends tout de suite après que Pierre, en prison, fait l'objet de la délivrance du Seigneur. Je me pose la question, peut-être vous l'avez-vous posé aussi, est-ce que Dieu aimait moins Jacques que Pierre? Pourquoi Jacques est-il mort et Pierre a-t-il été libéré? Est-ce que l'Église n'a pas prié de la même façon pour Jacques que pour Pierre? Est-ce qu'il y avait une différence de spiritualité entre ces deux hommes au point que le Seigneur a fait un choix et il a laissé l'un être livré à la mort et l'autre a été secouru au travers de miracles extraordinaires? Est-ce que Dieu agit de cette manière-là? Écoutez bien, mes frères et sœurs. Ce serait difficile pour moi de donner une réponse claire. Cependant, j'ai un verset à vous citer, un verset que vous connaissez tous très bien. Il se trouve dans le psaume 115 et c'est le verset 3. Il est dit ceci, « Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. » Et que l'on vive ou que l'on meure, ce qui est important, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée. Et je vais vous dire, certains ont dit que les martyrs, en donnant leur sang, eh bien, ont été la semence d'une Église toujours plus forte et d'une Église victorieuse. Alors, c'est vrai, il y a des choses qui peuvent nous paraître étonnantes, mais un jour, Dieu nous révélera la raison de ce qu'il a permis ici-bas sur la terre et qui pour nous, nous semble inexplicable. Il y a ici, dans cette salle, un frère et une sœur qui connaissent la ville d'Avignon, l'église d'Avignon, et notre frère et notre sœur, pour ne pas cacher leur nom, Pison, eh bien, ont connu certaines situations dans cette église d'Avignon. Et au commencement de cette œuvre, il y avait un homme qui, son nom, je peux le citer, c'était le pasteur Isartel. Et il a commencé cette œuvre de tout son cœur, servait le Seigneur, étant conduit, dirigé, inspiré par le Saint-Esprit. Et il était encore relativement jeune, quand allant dans un certain lieu pour apporter le message de l'Évangile depuis la ville d'Avignon, il a eu un accident. Je crois qu'arrivé dans une barrière, il se déplaçait en moto, eh bien, il a trouvé la mort. Et les chrétiens pouvaient se demander à ce moment-là, pourquoi lui, serviteur de Dieu, est-il mort, encore relativement jeune? N'y avait-il pas encore un grand travail à faire, à accomplir? Oui, bien sûr, puisque d'autres sont venus après lui et que l'œuvre a continué à se développer. Mais la question se pose, pourquoi un serviteur de Dieu est-il comme cela emporté subitement? Permettez-moi un autre exemple. Dans le Nord, il y a bien des années, se trouvait, faisant partie de l'église baptiste, un serviteur de Dieu évangéliste qui avait un tel succès dans la prédication de l'évangile que les chrétiens baptistes du Nord, en parlant de lui, disaient « c'est le Billy Graham de la France ». Cet homme avait du succès et savez-vous ce qui lui est arrivé? Un jour, lui aussi, en allant apporter le message de l'Évangile quelque part, malheureusement, je dirais malencontreusement, il a fait la rencontre avec un automobiliste qui était ivre et qui a provoqué un terrible accident, et il a trouvé la mort. Il avait à peine une trentaine d'années. Et les gens ont commencé à dire, mais pourquoi ? Pourquoi un homme qui a un tel succès, un homme que Dieu a utilisé d'une façon si remarquable, pourquoi est-il mort ? Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et voyez-vous, ce qui est important pour chacun d'entre nous, ça, c'est l'enseignement que nous pouvons retirer. Dès que nous sommes conçus dans le sein maternel, la parole de Dieu déclare que Dieu qui nous forme dans le sein maternel connaît déjà par avance le nombre de jours qui nous est accordé. Et je voudrais simplement vous dire, mes frères et sœurs, je ne sais combien de temps il me reste à vivre. Je ne sais pas pourquoi d'autres personnes beaucoup plus jeunes que moi ont été ravies et sont parties. Je ne sais pas non plus combien de temps il vous reste à vivre, mais je vous interpelle ce matin pour vous dire, frères et sœurs, ce qui est important, c'est que quel que soit le nombre de jours, de mois ou d'années que Dieu nous accorde ici-bas sur la terre, dans le laps de temps que Dieu nous accorde, il faut que nous accomplissions les desseins de l'Éternel pour nous. Et ça, c'est ce qui nous pousse chaque jour à rechercher la relation étroite avec lui pour savoir ce qu'il attend de nous. Parce que nul d'entre nous ne sait quand le Seigneur va le rappeler. Mais peu importe quand, si on est prêt. Et Jacques était prêt à rencontrer son Dieu. Maintenant, voyons. Pierre est dans la prison. L'Église commence à prier, à intercéder. Je me demande s'il n'y avait pas d'autres moyens, peut-être efficaces, aussi efficaces que la prière, pour que Pierre soit délivré. Vous voyez, nous sommes toujours prêts à utiliser des moyens humains. Je vais essayer de m'expliquer à ce sujet-là. C'est à dessein que je suis allé jusqu'à la fin du chapitre. Et à la fin du chapitre, il est dit que ce fameux personnage, Hérode, avait des dispositions hostiles aussi à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et ils ont gagné Blast, son chambellan, et ils le sollicitèrent la paix. Par quels moyens ont-ils gagné cet homme qui était une sorte de trésorier ? Eh bien, tout simplement en le soudoyant. Vous savez, mes frères et sœurs, l'Église, à cette époque, à Jérusalem, était composée de milliers de personnes. Il y avait eu des milliers de conversions. Et si on avait demandé à chacun de verser une certaine somme d'argent pour soudoyer, eh bien, un serviteur d'Hérode, peut-être y aurait-il eu aussi le secours et la délivrance. Mais l'Église n'a pas pensé à cela. L'Église n'a pas voulu penser à cela. Parce qu'elle avait un autre moyen, plus efficace. Et là, c'est pour moi une occasion d'insister là-dessus. Rien ne pourra jamais remplacer la prière de la foi. Et l'Église doit connaître ce que c'est qu'une vie de prière et une vie d'intercession. Je vous assure, mes frères et sœurs, que les chrétiens de cette époque, dont il est dit au commencement du livre des Actes des Apôtres qu'ils étaient capables de vendre leurs biens, de se débarrasser de tout ce qu'ils savaient et que finalement ils donnaient tout pour l'œuvre de Dieu. Ils étaient encore prêts à donner tout ce qu'ils avaient pour que Pierre soit sauvé, très probablement. Mais ils ont choisi de prier. Mes frères et sœurs, en face des circonstances qui sont les nôtres, il faut que nous choisissions de prier. Il faut que nous choisissions d'être plus engagé dans une vie de prière, non seulement à titre personnel, mais aussi à titre collectif. Avez-vous remarqué? Ils étaient rassemblés là, dans la maison de Marie, la mère de Marc, et là, ils ont mené un combat au travers de la prière. Combien de jours Pierre est resté dans la prison? Ça n'est pas dit avec précision, mais il est dit seulement que c'était les jours des pains sans levain. Et tous les commentateurs sont à peu près d'accord pour dire qu'il est resté au moins 8 jours dans la prison. Imaginez l'Église qui prie le premier jour, puis rien ne se passe. Le deuxième jour, ils invoquent le nom de l'Éternel. Ils sont là, peut-être jour et nuit, peut-être en faisant un roulement, je ne sais pas. Rien ne se passe. Troisième jour, rien ne se passe. Et c'est là que commence la tentation. C'est inutile. Nous n'arriverons pas. Ce qui est arrivé à Jacques va arriver à Pierre. Peut-être à ce moment-là, il y a le doute qui commence à gagner le cœur. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est là que je voudrais vous dire, bien des fois, je me suis arrêté trop tôt. Ça ne vous est pas arrivé non plus? On prie pour quelque chose et on manque de persévérance. Cependant, la parole de Dieu dit que nous devons être persévérants dans la prière, persévérants en cherchant Dieu, parce que Dieu veut utiliser justement nos cœurs et nous rendre parfaits en nous accordant la patience et la persévérance. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont quand même persévéré. Et comme ils ont persévéré, eh bien, la Bible dit que Dieu est intervenu. Mais ce qui est magnifique, c'est la manière dont Dieu va répondre à la prière de ses chrétiens et comment il va s'y prendre dans cette prison-là. Vous savez, c'est curieux, mais il est dit tout simplement qu'un ange est descendu. Et écoutez bien, la première chose qui s'est passée, une grande lumière est venu éclairer cette prison. Qu'est-ce qu'on pense normalement quand on est dans une telle situation? On se dit, s'il doit y avoir une délivrance, ça va se faire au profit des ténèbres, ça va se faire discrètement. Il ne faut quand même pas que la lumière vienne réveiller les soldats qui étaient en train de dormir. Eh bien, voyez-vous, Dieu ne s'embarrasse pas de considérations qui ne sont que le partage du cœur humain. Il peut faire des choses extraordinaires sans que les hommes ne le remarquent, à l'exception de ceux qu'il veut secourir et de ceux qu'il veut délivrer. Je vois, par exemple, dans la parole de Dieu, d'autres cas identiques. Vous savez que Saul de Tarse, après avoir rencontré Dieu et devenu l'apôtre Paul, il raconte son témoignage. Et en racontant son témoignage, il dit qu'une grande lumière lui est apparue et le Seigneur lui-même lui est apparu et lui a adressé la parole. Et il dit que ceux qui étaient avec lui, eh bien, n'ont vu personne. Et ils entendaient la voix, mais n'entendaient pas ce qu'il disait. Et dans un autre passage, qui se trouve au chapitre 22 du livre des Actes des Apôtres, eh bien, les choses sont dites dans un autre sens. Ça veut dire que les gens ont vu la lumière, mais ils n'ont pas vu le Seigneur. Paul, lui, Il a pu s'entretenir avec le Seigneur et il a entendu les paroles. Les autres n'ont pas compris les paroles. Pourtant, ils étaient dans le même lieu. Regardez dans l'Évangile. Il est dit que, à un moment donné, le Seigneur, a entendu la voix du Père prononcer ces paroles magnifiques. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et ceux qui étaient là, en même temps, qui écoutaient rendre témoignage le Père à son Fils, eux, ils ont entendu quelque chose et ils ont dit, c'était comme le tonnerre. Et ils n'ont pas bien entendu les paroles. Dieu se fait comprendre, entendre, par ceux à qui il veut vraiment se révéler. Mais il est capable aussi de fermer les oreilles et de fermer, les yeux aux autres, parce que, comme cela, Dieu est tout-puissant et il fait des choses étonnantes. Je vais vous dire une fois dans ma vie, une chose étonnante s'est vérifiée de cette manière-là. J'ai été appelé à intervenir à un service d'ensevelissement d'un bébé de 8 mois. C'était parmi le peuple gitan et je ne sais pour quelle raison, vous me connaissez, mais je ne sais pas pourquoi eux ont pensé que j'étais un sorcier qui avait fait mourir le petit bébé. Alors ne vous approchez plus de moi. Vous voyez, ils ont eu comme cela cette pensée. Et comme les parents du bébé tenaient absolument à ce que je fasse le service d'ensevelissement, je me suis rendu au cimetière et vous savez, quand je suis arrivé au cimetière, il y a eu une manifestation incroyable. D'abord, à la maison. Il y avait de chaque côté du chemin qui conduisait à la maison des personnages pleins de haine qui m'attendaient simplement et ils avaient dit, ben lui, on va lui faire la peau. Et moi, je ne savais pas. C'est ce que j'ai appris seulement après. J'ai vu en effet ce cortège. Moi, j'étais fier, vous pensez, passer comme cela entre une haie d'hommes. Je ne savais pas qu'il y avait la méchanceté dans leur cœur, le désir de me faire du mal. Vous savez ce qui s'est produit? Ils ne m'ont pas vu. Ils ne sont pas aperçus que j'étais là pour faire l'ensevelissement. Par contre, quand ils sont arrivés au cimetière, ils ont commencé à manifester leur haine. Ils se sont mis en travers du corbillard. Ils ont empêché le corbillard d'avancer. Là, j'ai pu voir leur haine vraiment se manifester. Ils ne m'avaient pas vu précédemment. Là, ils voulaient m'empêcher de faire le service. J'ai été même obligé de faire appel à la police. Et pour une fois dans ma vie, j'ai prêché entre deux policiers. Et là, il y a eu le calme, la paix. Mais je dois vous dire, ce qui m'a fort étonné, c'est que précédemment, je suis passé au milieu d'eux sans qu'ils me voient. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu lui-même qui est capable de faire une telle chose. C'est ce qui s'est produit ici. Il a simplement fait briller cette lumière et Pierre l'a vu. Pierre s'est réveillé d'autant plus qu'il a été frappé à son côté. Et chose étonnante, encore une fois, il lui dit « Les chaînes sont tombées de ses mains. » Dites-moi, les chaînes qui tombent, ça fait du bruit, non? Les soldats étaient là. Ils se sont aperçus de rien. Ils ne se sont même pas réveillés. Vous voyez combien notre Dieu est grand, combien notre Dieu est puissant, combien notre Dieu est capable de faire des choses qui sont surprenantes. Cependant, il y a quand même quelque chose qui est merveilleux dans cette délivrance. Dieu intervient par le moyen de cet ange pour que Pierre puisse être délivré de la prison. Mais tout ce qu'il fait, il ne le fait pas avec précipitation. Mettez-vous un peu à la place de Pierre. Il voit les chaînes tomber. L'ange est là, qui lui parle. Il sait qu'il est en danger, puisque les soldats sont encore à côté de lui. Ah, j'ai oublié de vous dire une chose. Avez-vous remarqué la paix de Pierre, qui était à la veille de son exécution, puisque la Bible nous dit qu'il était à la veille du jour où Hérode voulait le livrer à la justice pour être exécuté. Eh bien, lui, il dort paisiblement. Ça, c'est la paix de Dieu. Et quand il est réveillé, eh bien là, il pourrait très bien dire, « Allô, il faut faire vite, il faut sortir vite. » L'ange lui dit, « Non, 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 pas de précipitation. » Il dit, « Hé, prends ta ceinture et mets ta ceinture. Mets tes sandales. » Voyez, l'ange, il a le temps. Et il lui dit, « Maintenant, enveloppe-toi de ton manteau. » Ça me fait penser à quelque chose qui se trouve dans l'Ancien Testament. Vous savez, le peuple était captif à Babylone. Et Dieu parle au travers du prophète. Il annonce la libération, il annonce la délivrance, mais il dit, vous ne sortirez pas avec précipitation. Parce que quand Dieu fait les choses, il les fait d'une manière tellement merveilleuse, tellement formidable, qu'il n'y a pas lieu d'avoir de précipitation. C'est dans le calme et dans la confiance qu'est la force. Et l'ange instruit ainsi Pierre de cette manière-là. Et en même temps, je découvre là une image formidable sur le plan spirituel. Parce qu'il lui rappelle, prends la ceinture. Alors je me tourne vers la parole de Dieu et je vais jusqu'à cette lettre écrite par Paul aux Éphésiens quand il parle de la manière dont les chrétiens doivent être revêtus, des armes de lumière qu'ils doivent posséder. Et parmi les armes, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la ceinture de la vérité. Et nous avons besoin de mettre notre ceinture. Savez-vous à quoi est utile la ceinture à cette époque-là? Eh bien parce que les vêtements qu'ils portaient étaient des vêtements amples et la ceinture était juste là pour ramener ces vêtements juste au corps, empêcher que dans la précipitation on soit accroché par des ronces ou quelque chose. Vous savez, la vérité, elle doit faire corps avec nous. Nous devons être des chrétiens authentiques, des chrétiens vrais. La vérité, nous ne devons pas la connaître simplement ici, au niveau de la tête. La vérité, elle doit gagner notre cœur. Et cette ceinture de la vérité nous empêchera d'être accrochés par des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est comme cela qu'on peut éviter de déchirer notre vêtement que le Seigneur nous a donné, ce vêtement blanc, par les choses qui se trouvent dans ce monde. Si nous faisons corps avec la vérité, nous serons mis à l'abri des attaques de l'ennemi de notre âme. Et qu'est-ce qu'il dit lui ? Mets tes sandales. Vous avez lu avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, vous connaissez ce passage. Et il est dit que nous devons mettre à nos pieds le zèle que procure l'évangile de paix. Les chrétiens doivent être zélés. Zélés pourquoi ? Zélés pour le Seigneur. Nous devons avoir cette flamme qui brûle à l'intérieur de nous-mêmes, un amour toujours plus grand et sincère pour le Seigneur. Vivre pour lui et uniquement pour lui. Ça ne veut pas dire que nous devons négliger les choses de cette terre. Un chrétien a aussi les pieds sur la terre, mais précisément, il a aussi le but de faire connaître le beau message de l'Évangile. Un chrétien, c'est un témoin. Et nous devons être efficaces, parce que notre manière de vivre parle plus que ce qui sort de notre bouche. Mets à tes pieds le sandal, les sandales que procure l'Évangile de paix. Et puis, il a rattrapé l'ange Pierre, qui devait déjà être presque en marche. Nous connaissons, n'est-ce pas, sa promptitude, sa manière d'être. Et l'ange lui dit, avant de sortir, enveloppe-toi de ton manteau. Quelle délicatesse. Moi, en lisant cela, je suis émerveillé. Je me dis, mais on dirait finalement que c'est Hérode lui-même qui a envoyé un de ses serviteurs pour libérer Pierre et le faire avec tellement de délicatesse. Non. Hérode n'était pas bien disposé à son égard. Mais Dieu l'est pour son serviteur. Enveloppe-toi de ton manteau. Le manteau de la justice dont nous avons besoin d'être revêtus. Nous le chantons parfois cela, hein, revêtu de ce manteau de justice, parce que ça, c'est précieux. Lorsque nous sommes attaqués à l'intérieur de nous-mêmes par l'ennemi de notre âme, qui voudrait faire remonter à la surface ce que nous sommes naturellement dans le fond de notre cœur, mais dont nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et nous nous présentons devant Dieu, non pas avec notre propre justice, mais avec celle dont il nous revêt à cause de l'œuvre qui a été accomplie par Jésus sur la croix. Et maintenant, eh bien, voilà ce qui se passe. Tout est parfait jusqu'à maintenant. Le miracle s'accomplit les uns après les autres. Il passe la première garde, il passe la seconde garde. Ah ben, tout va bien. Hop, d'un coup, l'obstacle majeur, la porte de fer. Ça vous est jamais arrivé, frères et sœurs? Vous êtes là, dans certaines circonstances, vous priez, et puis le Seigneur semble aller dans la bonne direction avec vous. Il y a des choses qui sont positives. Un premier obstacle est franchi, un deuxième obstacle est franchi. Vous voyez Dieu agir et vous dites, « Ah, c'est formidable, le Seigneur est en train d'ouvrir le chemin pour nous. » Oui, il y a la réponse. Et d'un seul coup, clac, la porte de fer. Oui, c'est un obstacle pour nous, mais pas pour Dieu. Et regardez ce qui se passe. La porte de fer s'ouvre d'elle-même. Vous avez vu? Un petit peu comme dans les magasins aujourd'hui. Vous vous présentez devant et vous voyez la porte hop, qui s'ouvre comme ça. Il y a longtemps que Dieu a inventé ce système. Hein? C'est là. Chose étonnante. Et Pierre, émerveillé, se retrouve dans la rue. Et il est dit, dès qu'il est arrivé à la rue, l'ange a disparu. Et là, nous devons dire quelque chose. Notre Dieu ne fait pas de miracles inutiles. Ce que nous ne pouvons pas faire, il va l'accomplir. Mais ce que nous pouvons faire, eh bien, il ne va pas le faire à notre place. Et ça, nous devons bien le comprendre. Il y a des choses que Dieu a faites pour nous. Et nous n'aurions jamais pu obtenir le salut sans ces choses qu'il a accomplies pour nous. Mais maintenant, il nous a sauvés, il nous a libérés, et maintenant nous sommes livrés à nous-mêmes, entre guillemets. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit est celui qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous inspire et qui va nous donner la force pour faire ce qu'il attend que nous accomplissions. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Et donc, Pierre a réfléchi. Il s'est retrouvé seul. Il n'y avait plus l'ange. Quel sentiment de solitude d'un seul coup. Mais il a réfléchi. Et il dit, dans quelle direction je dois aller? Et il pense à quelque chose. Il sait qu'il y a un endroit où les chrétiens se rassemblent pour prier. Mes frères et sœurs, à Aubagne, il y a un endroit où des chrétiens se rassemblent pour prier. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui ont toujours eu ce zèle, cet bon état d'esprit, cette bonne disposition de cœur pour venir s'unir aux autres pour que nous menions le combat ensemble. Merci Seigneur. Mais nous devons continuer à demander à Dieu qu'il mette toujours plus d'intérêt pour la vie de prière collective. Pierre savait que là, il y avait un endroit où on se rassemblait pour prier. Alors, il se dirige là, vers cette maison, et il frappe à la porte. Et c'est l'attitude de Rode, entre parenthèses, Rode, ça signifie rose, qui est un peu surprenante dans un premier temps. Elle va, c'était la servante, pour ouvrir. Et juste avant d'ouvrir, elle colle son oreille à la porte. Elle entend la voix de Pierre. Elle est vraiment très heureuse, elle au moins. Eh bien, elle a cette joie qui est produite par justement l'exaucement que Dieu a accordé à la prière. Une grande joie, une grande exaltation, mais elle manque de pragmatisme. Grande joie, et elle s'en va pour dire aux autres, « Pierre, il est là, il a été délivré !» Oui, mais le pauvre Pierre, il est toujours à la porte, en train de frapper. Vous voyez, mes frères et sœurs, certains chrétiens ne connaissent que ça, l'exaltation dans leur vie. L'exaltation. Attention, mes frères et sœurs, l'exaltation doit aussi nous conduire à ce qui est pragmatique, à ce qui est pratique. Il faut vraiment faire les choses d'une manière qui soit sage et raisonnable. Il y a des chrétiens exaltés et ils ne connaissent que cette exaltation-là, au point même que certains ont inventé une nouvelle dénomination qui s'appelle extravagance, où il n'y a que de l'exaltation. Il ne faut pas que ça dans la vie. Il y a aussi une obéissance humble et simple à la parole de Dieu. Puis il y a les autres pour lesquels on pourrait dire à quoi ça servait qu'ils prient, puisqu'ils ne croient pas. Au moment où, justement, elle leur dit « Pierre est rendu à la liberté », ils disent « Mais tu es folle !» Ah ben ça alors, qu'est-ce qu'ils sont ces gens-là? Eh bien, ce sont des gens qui se sont habitués, écoutez bien ici, à la routine de la prière, à une certaine religiosité, et qui finissent par faire les choses machinalement sans croire que Dieu répond à la prière. Je dois vous dire que ça m'est arrivé plus d'une fois d'agir de cette manière-là, de demander à Dieu des choses sans croire vraiment qu'il le ferait. Un de mes collègues m'a raconté cette expérience étonnante. Il priait pour quelqu'un qui était atteinte d'une personne atteinte d'une certaine infirmité et c'était important. Cette infirmité-là. Mais lui, il a prié. Et puis, à la fin de la prière, la personne a éclaté en louange. Et elle a dit, mais Dieu vient de me guérir. Et lui, il lui a posé la question, mais vous étiez vraiment atteint de ça? Tellement il était étonné de ce que Dieu avait fait. Et tout de suite, il s'est rendu compte. Mais alors, quel incrédule. Je prie sans croire que Dieu peut le faire. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Ça nous arrive. Et des fois, nos réunions de prière, elles sont fades, parce que nous nous sommes habitués à dire des mots, sans croire vraiment que ce que nous demandons à Dieu, ben, il va le faire. Ben, peut-être pas le faire aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être même pas après-demain. Pour certains, il y a certaines choses qu'ils ont demandées pendant des mois, d'autres pendant des années. Mais Dieu a répondu. Parce qu'il est toujours celui qui écoute et qui répond. Et je dois vous dire, il répond toujours. Oui, ou parfois non, mais quand il dit non, il apporte une paix dans notre cœur et il nous dit la raison pour laquelle il dit non, nous nous en apercevons après et nous lui rendons toujours grâce. Vous voyez, mes frères et sœurs, il faut que nous veillions à la disposition de notre cœur quand nous sommes dans la prière. Troisième catégorie, les superstitieux. Eh oui, il y en a qui ont dit, mais non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Ça correspond à une superstition des Juifs qui pensaient à ce moment-là que chaque personne avait un représentant, un ange particulier qui l'accompagnait. Alors Pierre, il devait être en prison et l'ange venait frapper à la porte de la maison. La superstition. Il faut que nous fassions attention parce qu'il y a aussi parmi le peuple évangélique beaucoup de superstitions. Et beaucoup se laissent avoir par des choses qui ne sont que des fables. Et la parole de Dieu met en évidence que l'Évangile, ce ne sont pas des fables. C'est une glorieuse réalité. Et nous avons besoin de trouver cet équilibre. Écoutez bien, tout ça, ça s'est passé dans la maison de Marie, mère de Marc. Quelle bonne préparation pour ce garçon qui allait ensuite devenir un collègue de l'apôtre Paul. En tous les cas, je remarque une chose. Il est dit, Pierre, ce jour-là, sortit de cette maison après avoir expliqué ce que Dieu avait fait. Et si vous prêtez attention, dans le livre des Actes des Apôtres, à part une seule fois au chapitre 15 où il apparaît pour la convention de Jérusalem où il y avait un problème à régler, on n'entend plus parler dans le livre des Actes des Apôtres de Pierre. Quelqu'un d'autre est venu le remplacer. Et là, c'est Paul et Barnabas qui continuent, travaillent. Et il amène qui ? Marc. Le Marc, qui aurait dû être bien préparé, en découvrant comment dans un temps de persécution, Dieu est capable de faire des choses étonnantes. Et pourtant, nous savons, parce que nous connaissons le reste de l'histoire qui nous est rapportée par la parole de Dieu, que lorsque Paul est arrivé dans une certaine région à cause de certaines difficultés, Marc a dit à Paul, écoute, moi je ne peux pas aller plus loin. Et il est retourné en arrière. Il est parti avec justement un membre de sa famille. Vous voyez, quand même, il n'a pas dû l'oublier tout à fait, puisque beaucoup plus tard, l'apôtre Paul va écrire à quelqu'un qui s'appelle Timothée et va lui dire, eh bien, tu peux me faire apporter Marc parce qu'il me sera utile. Quelque œuvre formidable, une œuvre formidable s'était accomplie dans le cœur de cet homme. Vous voyez, Dieu utilise un tas de choses dans notre vie pour nous rendre toujours plus conformes à sa volonté. Mais avant de terminer, je voudrais vous parler de la fin de Hérode. Vous savez que Dieu, il a tout en main. Et je ne sais pas, mais c'est quand même extraordinaire de voir comment Hérode a terminé. Moi, je plains, n'est-ce pas, ce qui, d'une manière injuste, s'attaque au peuple de Dieu. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il se présente devant Dieu. Pour Hérode, le jugement l'atteint déjà ici-bas sur la terre. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un jour, Dieu se lèvera. Et je pense à tous ceux qui sont des instruments entre les mains de Satan pour persécuter nos bien-aimés frères et sœurs dans quelque partie de ce monde où ils connaissent la souffrance. Mais le jugement de Dieu les atteindra. Et comment le jugement a atteint Hérode? Parce qu'il n'a pas su rendre gloire à Dieu. Finalement, Hérode, il a été témoin aussi de ce que Dieu a fait. Bien sûr, il a fait tirer les soldats, il les a amenés, n'est-ce pas, dans une situation très difficile pour eux. Ils y étaient pour rien, c'était l'intervention de Dieu. Mais Hérode a voulu savoir comment ça se fait que Pierre avait été délivré. Il avait bien dû se rendre à l'évidence qu'il y avait eu un miracle formidable, que Dieu était intervenu. Il aurait dû craindre l'Éternel, il aurait dû craindre Dieu. Mais je pense à ceci, mes frères et sœurs, quand l'incrédulité a gagné un cœur, je comprends pourquoi Jésus a dit « quand bien même quelqu'un ressusciterait d'entre les morts, il ne croirait pas pour autant ». Parce que la seule chose qui peut transformer un cœur, c'est la puissance de l'Évangile. L'Évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et lui, eh bien, est arrivé un moment où, comme il avait été soudoyé par des hommes, à porter, je dirais, son secours à une population qui était en difficulté, eh bien, dans un certain jour, il est monté sur son trône, il a harangué la foule comme cela, avec un orgueil pas possible, et tandis qu'il s'adressait de cette manière-là, les gens ont dit « Oh, voix d'un Dieu !» et non de nom. Ça me fait penser à la période que nous sommes en train de traverser. Comme c'est étonnant de voir les gens aduler des personnages, aduler des êtres humains. Étonnant de voir comment on peut faire des idoles de personnages qui n'en valent pas la peine. D'ailleurs, on parle des dieux du stade. Avez-vous remarqué? On parle de certaines vedettes comme étant des stars, des étoiles. Ça, c'est l'orgueil de l'homme, en même temps que sa stupidité. Et Dieu a entendu ce que disait le peuple. Et comme cet homme n'a pas été capable de rectifier et de dire « Non, 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 non !» Non pas à moi la gloire, mais à Dieu la gloire. Dieu l'a frappé. Et l'historien Joseph de cette époque rapporte qu'il est mort d'une manière affreuse. Là, il est dit « rongé des vers », mais ça a duré plusieurs jours dans une souffrance terrible. Et je dirais, ça encore, ce n'est rien par rapport à ce qu'il va connaître pour l'éternité, où il sera dans le feu éternel pour toujours. Vous savez, mes frères et sœurs, remercions le Seigneur d'avoir l'assurance du salut. Remercions le Seigneur d'avoir été délivré des sentiments qui caractérise les hommes incrédules, méchants, mauvais. Remercions le Seigneur, parce que finalement, notre cœur naturel n'est pas meilleur. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Et nous savons que pour nous, eh bien, c'est une félicité éternelle qui est attendue. Mais n'oublions pas que dans les moments difficiles, nous avons un Dieu qui entend la prière. Que Dieu vous bénisse.